Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le cri d'alarme du médecin humanitaire Raphaël Pitti sur la situation en Syrie. Il s'est récemment rendu à Raqqa, l'ex-capitale autoproclamée du groupe État islamique en Syrie, où la plupart de la population vit dans des ruines et l'autre à l'extérieur dans des camps. Raphaël Pitti sera l'un de nos invités. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a démissionné hier, une démission à l'issue d'une nouvelle journée de manifestation réprimée par les autorités issue du coup d'État du 25 octobre. Interpellé vendredi, l'ex-ministre tunisien de la Justice et homme fort d'Ennahda, Nourdine Biri, a été hospitalisé dans un état qualifié de critique. Il a été transféré à l'hôpital de Bizerte. Une nouvelle série de mesures sanitaires est entrée en vigueur aujourd'hui en France face à la propagation du variant Omicron et l'accroissement de la pression hospitalière. Les élèves sont de retour à l'école aujourd'hui avec un nouveau protocole sanitaire annoncé hier par le ministre de l'Éducation. Il prévoit 3 tests consécutifs pour les cas contacts. Nous y reviendrons avec Yannick Trigans, secrétaire national du Parti socialiste chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur. La situation en Syrie, un drame humain se passe sous nos yeux. Des mots du professeur de médecine Raphaël Pitti, responsable formation à l'Union des organisations des secours et soins médicaux. Le médecin urgentiste s'est tout récemment rendu en Syrie et notamment à Raqqa, l'ex-capitale autoproclamée du groupe État islamique dans le pays. Entretien avec le professeur Raphaël Pitti.
Nous sommes allés à Raqqa et nous avons formé 4 équipes constituées d'un médecin et d'un infirmier qui devait, sur la base d'un protocole que nous avions érigé, aller dans les camps de réfugiés pour examiner les enfants de ces camps de réfugiés, des enfants entre 4 ans et 6 ans, afin d'établir leur état de santé. Auparavant, j'avais travaillé avec la protection maternelle et infantile du département de la Moselle et avec aussi l'Observatoire régional de la santé, ce qui devait faire l'analyse épidémiologique. Il avait été donc entendu que pour avoir un échantillon représentatif de ces enfants, il fallait que les 4 équipes puissent avoir examiné environ 1000 enfants. Et donc entre le 15 novembre et le 15 décembre, et c'est exactement ce qui a été fait, en fait ils en ont examiné 1023. Et donc actuellement nous attendons les analyses de cette étude qui a porté à la fois sur le psychologique, sur le cognitif, sur le sensoriel, c'est-à-dire étude éventuellement à la recherche de troubles auditifs ou de troubles visuels, et aussi somatiques. Et donc, nous attendons les résultats, mais je peux vous dire dès à présent, compte tenu un peu du rendu que nous avions chaque semaine avec les équipes sur place, et les photos qu'ils m'ont envoyées, que c'est vraiment une situation catastrophique sur le plan sanitaire pour ces enfants qui sont dans ces camps de réfugiés, dans un pays qui est en guerre depuis 10 ans, et ces enfants qui vivent dans ces camps sans aucune éducation, sans aucun moyen sanitaire et dans un état de santé lamentable.
Vous l'avez dit, vous êtes rendu à Raqqa, l'ex-capitale autoproclamée de l'État islamique en Syrie. Raqqa, où la majorité de la population vit encore dans des ruines.
Oui, la ville est détruite à 60%. Avec des zones qui sont détruites à 80%, d'autres qui le sont moins. Mais globalement, en gros, on peut considérer que la ville est détruite à 60%. Et beaucoup de gens vivent à l'intérieur de ces bâtiments qui sont en ruine. D'autres, comme je l'indiquais tout à l'heure, sont sortis de Raqqa et vivent dans des camps qui ne peuvent pas considérer véritablement que ce soit des camps. Ils se sont installés en pleine nature, rapprochés les uns des autres. Et ils vivent dans une situation de très, très, très grande misère, c'est-à-dire qu'ils vivent véritablement sur les poubelles. Il y a même un moment donné où les autorités de la ville de Raqqa avaient envisagé de supprimer ces poubelles. Et donc, la population de ces camps se sont refusés parce que c'est de là qu'ils tirent leur gagne-pain. Ils trient et vendent ce qu'ils peuvent vendre et se nourrissent aussi maintenant des détritus qui sont là. Et donc, personne ne peut imaginer, je ne pouvais pas même moi-même imaginer qu'ils étaient dans une telle situation de misère.
Et vous mettez en lumière l'impact psychologique, voire psychiatrique, que cette misère peut avoir sur la population.
Oui, absolument, et elle est très très profonde. Ces enfants ne reçoivent aucune éducation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école qui soit là pour les prendre en charge. Ils vivent, comme je vous l'expliquais, dans le détritus et leur état d'hygiène est épouvantable.
C'est une situation emblématique de ce qui se déroule aujourd'hui en Syrie. Quelle est la situation globale et est-ce que l'on peut parler d'une situation globale dans ce pays toujours en guerre ?
On peut parler d'une situation, oui, qui est globale. Globalement, on peut considérer qu'il y a beaucoup moins de violence, ça c'est vrai. 60% du territoire a été reconquis par le régime et ses alliés, c'est d'ailleurs la Russie et l'Iran. Et il y a encore cette bande du nord, à nord-ouest, c'est la zone dite Idlib, où il y a encore 70 000 rebelles qui sont à l'intérieur de cette zone, mais qui est d'une certaine manière contrôlée par les Turcs. Et de l'autre côté, vous avez le nord-est de la Syrie qui correspond à ce qu'on appelle le Kurdistan syrien, où il y a la présence des forces kurdes qui sont jusqu'à Raqqa et qui assurent la sécurité de cette zone. Les bombardements sont moins intenses qu'auparavant. Cependant, il y a une situation économique qui est catastrophique, car le pays est détruit. Il y a un effondrement du système économique, il y a un effondrement du système éducatif, il y a un effondrement du système social même, puisque 10 millions de personnes sont déplacées soit à l'extérieur de la Syrie, soit à l'intérieur de la Syrie, ce qui a fait éclater la structure sociale du pays qui était basée sur le communautarisme, bien évidemment, sur les tribus, etc. Et donc, toutes les familles ont subi maintenant cette violence, beaucoup de morts, beaucoup de viols, beaucoup de violences. Donc, la structure sociale de la Syrie est en grande partie très perturbée, ça c'est clair.
Vous êtes professeur de médecine concernant justement cette situation sanitaire, les chiffres liés au Covid-19, les chiffres fournis par l'État syrien ne sont pas fiables. Est-ce que vous connaissez justement la situation sanitaire aujourd'hui en Syrie concernant cette épidémie de Covid-19 ?
Oui, l'épidémie frappe cette population est très vulnérable, je l'ai expliqué à plus d'un titre. Compte tenu des difficultés, au même temps du stress profond dans lequel vit cette population depuis 10 ans, elle est donc sur le plan immunitaire, c'est une population qui est très vulnérable. Les pathologies chroniques aussi ne sont pas prises en charge. Et donc, il y a le Covid. Or, la première phase semblait avoir épargné la Syrie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, où la Covid sévit de manière très importante. Il n'y a bien sûr pas suffisamment d'oxygène. Il n'y a pas de service de réanimation. Je peux vous dire que dans tout le nord de la Syrie, il n'y a que 95 lits de réanimation à proprement parler, très peu de réanimateurs pour faire fonctionner ces structures. Et quelque chose qui est très emblématique pour moi qui suis en même temps réanimateur, c'est qu'il n'y a pas un seul appareil à gaz du sang, c'est-à-dire un seul appareil qui permet de mesurer le taux d'oxygène dans le sang. Or, si vous voulez prendre en charge un patient, vous avez besoin de cette mesure pour savoir de quoi il a besoin. Il n'y a pas un seul appareil à gaz du sang dans tout le nord de la Syrie, c'est vous dire. Aujourd'hui, ils en sont à utiliser de l'oxygène industriel, c'est-à-dire qu'ils utilisent de l'oxygène qui est capté à partir de l'air grâce à un filtre, mais cet oxygène n'est pas pur, ce n'est pas de l'oxygène médical, il n'est pas purifié, et cependant, ils l'utilisent pour les malades les plus graves. S'il y a un endroit où on trie véritablement, c'est bien en Syrie, toutes les personnes âgées ayant un taux d'oxygène mais calculé à partir de ce qu'on appelle un oxymètre, c'est-à-dire à partir du doigt, tous ceux qui sont dans une situation de gravité, on les laisse mourir, bien évidemment, parce qu'il y a très peu de lits de réanimation.
Et vous le dites, cette guerre a produit des comorbidités chez une grande partie de la population. Cette partie de la population qui est à risque, on sait par exemple que les troubles anxieux sont un facteur de risque supplémentaire lorsqu'on a le Covid.
Bien évidemment, c'est une population qui a depuis 10 ans vit constamment dans une situation de stress, en se posant la question de savoir si demain ils vont être encore vivants, et en se posant la question de savoir aussi comment trouver leur nourriture aujourd'hui. Et donc, nous avons alerté, nous sommes allés avec Médecins du Monde et l'USSM, et nous sommes allés rencontrer le commissaire européen à l'action humanitaire pour lui dire nos inquiétudes vis-à-vis de la situation humanitaire en Syrie. Et nous avons expliqué cette situation telle qu'elle se présente en disant et en essayant de prêcher pour une reconstruction, une réhabilitation des structures sanitaires pour essayer de soigner cette population qui est très, très, très fragilisé, bien sûr, et donc très vulnérable.
Le professeur de médecine Raphaël Pitty, responsable formation à l'Union des organisations de secours et soins médicaux, il s'est tout récemment rendu en Syrie. Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a démissionné hier, une démission à l'issue d'une nouvelle journée de manifestation. Deux manifestants hostiles au pouvoir militaire ont été tués hier alors qu'ils défilaient à Omdurman, dans la banlieue nord-ouest de Khartoum. Depuis le coup d'état du général Abdel Fattah al-Burhan le 25 octobre, 56 manifestants ont été tués, des centaines blessés. Interpellé vendredi dernier, l'ex-ministre tunisien de la justice et homme fort d'Ennahda, Nourdine Biri, a été hospitalisé dans un état qualifié de critique. Il a été transféré à l'hôpital de Bizerte. Samedi, l'instance de prévention de la torture et le parti Ennahda s'étaient inquiétés du sort réservé à Nourdine Biri et à un autre dirigeant d'Ennahda, Fatih Baldi, arrêté lui aussi vendredi. Cela s'est passé à Bagdad. Deux drones piégés ont visé ce matin des troupes de la coalition internationale anti-djihadiste dirigée par les États-Unis. Ces drones ont été abattus. Une attaque présumée des rebelles Shebab ont fait 6 morts au Kenya. C'est arrivé dans le comté de Lamu, une région de l'est du pays bordant la Somalie. Le Kenya a été la cible de plusieurs attentats meurtriers depuis 2011 et son intervention militaire pour lutter contre ce groupe terroriste dans le sud de la Somalie. Le Koweït appelle ses citoyens à ne pas se rendre dans plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne. Les autorités les appellent à quitter ces pays s'ils s'y trouvent déjà. En cause, les hausses des contaminations aux variants Omicron du Covid-19. Une série de mesures sanitaires est entrée en vigueur aujourd'hui en France face à la propagation de ce variant et l'accroissement de la pression hospitalière. Jusqu'au 23 janvier inclus, le port du masque devient obligatoire dès l'âge de 6 ans dans les transports collectifs intérieurs et dans les lieux qui reçoivent du public. Les règles d'isolement des personnes testées positives au Covid et des cas contacts s'allègent. Le gouvernement demande aux employeurs de fixer pour 3 semaines un nombre minimal de 3 jours de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent et 4 jours si possible. Les élèves sont de retour à l'école depuis aujourd'hui avec un nouveau protocole sanitaire annoncé hier par le ministre de l'Éducation nationale. Ce protocole qui prévoit 3 tests consécutifs pour les cas contacts. Jean-Michel Blanquer précise que les autotests seront délivré gratuitement aux parents des élèves cas contact. Les familles devront attester sur l'honneur que ces tests sont négatifs. Réaction de Yannick Trigance, secrétaire national du Parti Socialiste en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
Bah écoutez, tout d'abord, sur la forme, une fois de plus, le ministre Blanquer a montré tout le mépris qu'il peut avoir à l'endroit de la communauté éducative. Puisque les enseignants, les parents, les élèves eux-mêmes ont appris ça le dimanche soir à quelques heures de la rentrée des classes et par voie de presse. Donc Monsieur Blanquer persiste et signe dans sa manière de communiquer et surtout dans sa manière de considérer les représentants de la communauté éducative.
Sur le fond, il faudra que les élèves se fassent tester s'il y a un cas positif dans leur classe. Est-ce que cela vous semble difficile à faire ?
Ah oui, ça va être particulièrement difficile à organiser. On a bien vu d'ailleurs que déjà avant les vacances de fin d'année, lorsque ces tests devaient être mis en place, ça a été particulièrement compliqué. Là, il y a donc une procédure. On peut être évidemment favorable au fait que les élèves se fassent tester pour vérifier qu'ils ne sont pas positifs. Après, c'est la mise en œuvre qui, une fois de plus, va reposer très très lourdement sur les équipes éducatives, avec ajouter au fait que les familles vont devoir produire des attestations lorsque les élèves sont négatifs et toutes les difficultés que ça peut représenter. Une fois de plus, ce sont les équipes éducatives qui vont gérer cette situation particulièrement complexe. Bien sûr, il va falloir que les parents trouvent le temps déjà d'aller dans les pharmacies pour faire ces tests. Tous les parents d'ailleurs n'ont pas forcément le temps puisque les parents, pour bon nombre d'entre eux, travaillent. Ça signifie aussi que bien évidemment les parents souhaitent très naturellement que leur enfant continue à aller à l'école et donc on n'est pas à l'abri d'un certain nombre de situations où des parents n'oseront pas dire le résultat du test quand il est positif pour que leur enfant puisse continuer à aller à l'école. Donc on voit bien que tout cela est extrêmement extrêmement compliqué à gérer.
Alors il y a aussi la difficulté des enseignants qui seraient eux-mêmes testés positifs ou malades du Covid. Vous redoutez de l'absentéisme à l'école ?
Alors, je ne parlerai pas d'absentéisme. Absentéisme, c'est le ministre qui a utilisé ce mot-là et qui, je trouve, n'était pas très respectueux des enseignants. Il peut y avoir des enseignants absents pour cause, effectivement, d'une positivité au Covid, mais effectivement, il y a des études qui montrent qu'on pourrait arriver très rapidement à 30% du corps enseignant positif et donc ne pouvons plus assurer les cours. Et là encore, faute de moyens en remplacement depuis maintenant plusieurs années, eh bien, on voit bien que la situation va être très très compliquée. Quand de plus, le ministre prétend, en déclarant sur les ondes, que les enseignants devront faire classe physiquement, mais devront aussi faire classe en distanciel pour les élèves qui seront positifs, ce qui est strictement impossible, bien évidemment.
C'est impossible pour quelle raison? Tout simplement parce que il n'y a pas les moyens adaptés?
Oui, et puis parce qu'un enseignant ne peut pas se couper, se partager en deux. Il ne peut pas être en même temps dans sa classe à faire classe aux élèves qui sont en présentiel, et puis en même temps faire classe à des élèves qui sont à distance. Tout cela, on le sait, est complètement impossible. Et là encore, il y a une pression assez malsaine qui est mise sur les enseignants par le ministre.
Est-ce que vous êtes inquiet aussi en ce qui concerne les stages de troisième qui risquent d'être annulés en raison du télétravail?
Oui, bien évidemment, ça peut poser un certain nombre de difficultés. Il se peut qu'il y ait des stages qui soient annulés. Bon, là, on est face à aussi, il faut bien regarder, un cas de force majeure. On est dans une situation sanitaire délicate et donc il faudra trouver des modalités, soit pour que ces stages soient différés. Mais c'est vrai que c'est une situation qui est assez complexe.
Une question aussi sur les étudiants. Certains se demandent s'ils vont pouvoir passer leur partiel en présentiel alors qu'ils sont positifs.
Oui, là aussi c'est un vrai sujet. Alors il a été dit que les partiels seraient maintenus en présentiel et d'une certaine manière c'est une bonne chose. Mais après se pose la question effectivement pour les élèves testés positifs, quelles dispositions sont mises en place pour qu'ils puissent passer ces partiels et surtout qu'ils ne soient pas pénalisés par le fait d'être évidemment positifs. Donc là, il y a des dispositifs à mettre en place, voir est-ce que, comme ça s'est déjà fait par le passé, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une modalité de travail à la maison, enfin, il faut trouver, mais la situation va se présenter inévitablement.
Yannick Trigans, secrétaire national du Parti Socialiste chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur, il répondait à Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe, présenté par Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Dieunor Excellent, maire de Villetaneuse, auteur de « Quelle France en héritage ?», émission présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, bientôt midi 18h.